a chill sun funny sun. Be a million man a done funny land.
Vice Cartel.
Ice and money. They want money. The greatest thing in a heavy ghetto youth life.
Speedy. Depends them speedy.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Labor Radio. Je suis votre producteur Stéphane Doucette. Aujourd'hui, je suis tout seul. Mostafa est en Italie ou au Liban, je ne sais plus lequel. Mais bon, on a un petit épisode de 30 minutes aujourd'hui. Normalement, on a une heure. Vous pouvez nous entendre normalement entre 5 et 6 heures du soir sur CKUT 90,3 à Montréal ou CKUT.ca sur le web. On a aussi une page Mixcloud où vous pouvez trouver nos archives, puis nous trouver sur Facebook. Vous avez juste à chercher Labor Radio. On est aussi disponible via le site de Labor Radio Podcast Network, où est-ce que vous pouvez trouver d'autres podcasts, balados sur le monde du travail de partout dans le monde. Puis vous pouvez nous contacter via notre page Facebook. Donc, normalement, nos épisodes sont en anglais, surtout. Mais là, vu que c'est juste moi, puis on a une entrevue en français, je me suis dit, on va le faire en français. Aujourd'hui, on est avec Jean Gagnon. Il est représentant du secteur préhospitalier à la F3S de la CSM. Donc, il va nous parler de la situation dans le secteur préhospitalier en général, en lien avec des négociations là, qui sont peut-être à de terminer. Donc, sans plus tarder, voici l'entrevue. Bon, donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Jean Gagnon. Il est représentant du secteur préhospitalier à la FSSS de la CSN, donc la Fédération des services de santé et sociaux, je ne me trompe pas, dans cet ordre-là.
Fédération de la santé et des services sociaux,
C'est ça, OK.
FSSM.
Donc, on va parler du secteur préhospitalier. Moi, quand je consultais les conflits en cours là, récemment, j'avais vu qu'il y avait une grève générale des répondants médicaux d'urgence, des RMU, en Estrie, une grève générale qui durait depuis le mois de septembre. Puis dans le fond, tout le secteur, je pense que ceux et celles qui suivent les mouvements de grève, les négos, tout ça, se rappelleront peut-être que le préhospitalier, les ambulances roulaient avec des collants dessus à Montréal. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il se passait de quoi. Fait qu'on va parler de ça globalement. Grosse question, question qui tient beaucoup à cœur la population. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Gagnon, d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Donc, peut-être commencer brièvement, peut-être expliquer le cadre de négociation du prix hospitalier, parce que la plupart du monde, quand ils pensent santé, pensent secteur public. Puis en ce moment, ils penseraient front commun, mais ce n'est pas le cas pour le préhospitalier. Fait que peut-être que vous pouvez nous mettre un petit peu dans le bain de comment ça se passe dans ce secteur-là.
Je vais tenter de vous expliquer ça un peu parce que c'est quand même extrêmement complexe, ça. Bon, premièrement, nous, on négocie pas en même temps que le secteur public, là, et en même temps que le Front commun du secteur public. D'ailleurs, le gouvernement attend toujours d'avoir complété la négociation avec le secteur public avant de s'asseoir à la table pour négocier avec nous autres et nous faire des offres. Nous, la F3S-CSN, on représente, la majorité des paramédics dans l'ensemble de la province de Québec. On représente aussi des répondants médicaux d'urgence qui sont des centrales de répartition où on traite les appels d'origine médicale. Donc, lorsque les gens appellent le 911 et appellent ce qu'on appelle là, la police, les pompiers, ben, dès que c'est une urgence médicale, l'appel est transféré à ces centrales de répartition-là. On représente aussi du personnel de bureau à urgence santé et aussi des préposés, des mécaniciens. Alors, il faut faire les négociations de tous ces gens-là. Et évidemment, tout le monde de notre secteur était en négociation pour le renouvellement des conventions de 2020 à 2023. Et à l'heure actuelle, il nous reste que mais vous comprenez que c'est quand même gros et très important, les répondants médicaux d'urgence de la centrale de répartition qui est en Estrie et celle qui est à Québec à régler. Pour ce qui est des RMU de Montréal, nous avons réglé la négociation en même temps que le personnel de bureau là-bas, puisqu'ils sont dans un seul et même syndicat. Et ce qu'on réclame présentement pour les centrales de répartition de Sherbrooke et de Québec, c'est tout simplement l'équivalent de ce qui a été accordé à Urgence Santé. Peut-être pour terminer ma réponse, ça, sans trop m'étendre, il faut comprendre qu'à la Corporation d'urgence santé, les négociations se font en vertu de la loi sur la négociation des secteurs publics, même si on n'est pas avec la négociation des secteurs publics. Donc, c'est le Conseil du Trésor qui est assis à la table et c'est le Conseil du Trésor qui donne les mandats. Tandis que pour toutes les autres entreprises ambulancières au Québec qu'on couvre, et les centrales de répartition, comme ce sont des entreprises privées, des OBNL, ou des coopératives, alors c'est en vertu du code du travail que les négociations se font, mais vous comprendrez que c'est donc la Corporation d'urgence santé, ces négociations-là, qui tracent la voie pour l'ensemble du secteur préhospitalier au Québec. Voilà.
Bon, c'est une très bonne réponse, puis je pense que on est bien parti pour parler du secteur en général, là. Fait que pouvez-vous d'abord nous parler de comment ça ben si la plupart du secteur c'est déjà réglé, pouvez-vous nous parler un petit peu de c'était quoi les gros enjeux? Puis là, vu que c'est réglé en 2023 pour les conventions de 2020 à 2023, peut-être ça peut nous enligner sur une discussion sur quels seront les enjeux pour la prochaine négo qui est déjà commencée.
Avec plaisir, si vous me permettez, je vais juste vous faire peut-être un petit bout avec ceux qui n'ont pas terminé, là, avec Québec et Sherbrooke, pour vous dire que demain, vendredi, on a une rencontre de négociation qui est prévue, là, et on sait que la négociation perdure depuis plus de 3 ans et demi, parce que techniquement, ces conventions-là de 2023 sont comme expirées depuis le 1er avril 2023, si tant est-il qu'on aurait signé un 3 ans. Et demain, nous, les informations qu'on a, c'est qu'on devrait réussir à s'entendre et obtenir un règlement demain. Alors, l'avenir nous le dira. Pour ce qui est du reste, bon, évidemment, les paramédics ont renouvelé 2020 à 2023. Il y a de la rétroactivité qui s'est appliquée pour toutes ces années-là. Et on est à l'heure actuelle à monter le prochain projet de négociation, puisque la négociation est débutée normalement, mais on sait qu'ils vont régler le secteur public. Donc, nous, on prend le temps de bien faire les choses, de bien cibler nos demandes et on a l'intention de faire un dépôt de nos demandes avant les fêtes là, qui s'en viennent, donc à la fin de l'automne là, et en début d'hiver pour les paramédics. Maintenant, pour ce qui est bon, des répondants médicaux d'urgence santé, du syndicat de personnel de bureaux d'urgence santé qui sont dans un même syndicat, eux autres ont renouvelé jusqu'à 2025 et ils leur ont garanti un minimum d'1 %, là, mais ce n'est pas tant ça qui est important pour les 2 prochaines années, mais c'est qu'ils garantissent les mêmes augmentations de salaire que ce qui va être consenti à la négociation du secteur public. Et on a aussi dans le fond, le syndicat du personnel de soutien. Syndicat du personnel de soutien, c'est les gens, parce qu'en vertu de la loi, les paramédics, on est obligé de faire l'inventaire de nos véhicules, parce que vous comprendrez que s'il manque d'équipement à bord, c'est extrêmement critique. Alors, il y a une dérogation à la loi, ces endroits-là, où c'est des personnes préposées aux véhicules qui se trouvent à mettre l'équipement dans le véhicule et s'assurer que tout est conforme. Et on a aussi des mécaniciens, évidemment, qui s'occupent de l'entretien des véhicules. Alors, eux aussi ont renouvelé leur convention collective jusqu'à 2025. Donc, et par contre, il faut comprendre que ce personnel de soutien-là a beaucoup de clauses qui sont en commun avec les paramédics. Alors, il n'est pas question pour nous autres de les laisser tomber et il va y avoir des clauses remorques sur ces grosses demandes-là avec eux.
OK. Parlons un peu du contexte global là, pour le secteur, parce que dans un bref survol, là, pour me préparer pour l'entrevue, j'ai vu le président du syndicat mentionner un sondage qui disait que plus que 50 % des employés voulaient quitter le milieu du travail préhospitalier. On parle de l'insuffisance d'effectifs qui est tellement importante que de temps en temps, il y a 50 % des ambulances qui devraient être sur la route qui le sont. Tu sais, c'est des chiffres qui sont hallucinants. Puis c'est sûr que ça s'est traduit par des décès qui étaient totalement dus au manque de personnel. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu de comment est-ce que ça se passe en général, puis qu'est-ce que ça veut dire, mettons, pour pas juste pour les travailleurs, peut-être pour la population en général, mais bien sûr les deux.
Écoutez, c'est quand même clair que depuis les années 2000, la pénurie avait été planifiée. D'ailleurs, on a participé à des travaux avec le gouvernement de l'époque. Mais bon, on comprend que c'est une grosse machine, on comprend que les gens changent, hein, et puis les dossiers suivent, hein, pas toujours. À l'heure actuelle, on a un problème de pénurie. Hein, et vous savez, les problèmes de pénurie, il y en a dans tous les domaines, et c'est très important. Mais vous comprendrez que aussi dans le domaine du secteur préhospitalier, la pénurie est tout aussi importante et le manque de véhicules, le manque de ressources occasionné par le manque de personnel nous cause des gros problèmes. D'une part, les gens sont essoufflés, les gens sont à bout de souffle. Bon, c'est sûr qu'il y a des endroits où, tu sais, la pénurie se traduit de deux façons. OK? Au niveau des paramédics, la pénurie se traduit par des endroits où tu es obligé de faire beaucoup de temps supplémentaire et tu t'épuises parce qu'il manque de véhicules, puis on doit faire sortir les véhicules pour pas être en découverture. Et ça, c'est à la grandeur du Québec où on manque du personnel. Mais en plus, quand on regarde des régions comme les grands centres, C'est durant ton quart de travail, durant les heures où tu travailles, comme on regarde dans la région de Québec, on a d'autres régions au Québec aussi, où c'est durant ton quart de travail, c'est un appel derrière l'autre, c'est incessant. Tu ne viens pas à bout de finir à l'heure, tu ne viens pas à bout de manger. Comprenez, nous, là, d'aller sauver une vie, puis d'avoir un appel à la dernière minute, puis d'arriver en retard, et puis d'avoir un problème justement de gardienne, parce qu'à un moment donné, la gardienne te laisse tomber, parce que tu arrives en retard, etc., parce qu'on a sauvé une vie. Okay, où on était sûr d'aller sauver une vie, ben c'est acceptable. Mais lorsque jour après jour, depuis des années, tu ne manges pas à l'heure, ou tu n'as pas de pause repas à l'heure, ou tu n'as carrément pas de pause repas de ton chiffre, que tu ne finis pas à l'heure, que tu es obligé de rentrer en temps du temps, tout ça parce que la machine est remplie d'appels, ben c'est intolérable. Et la détresse psychologique embarque aussi avec ça. Au niveau des répondants médicaux d'urgence, c'est la même chose aussi. Eux sont en nombre limité et la charge de travail n'arrête pas. Ils sont obligés de rentrer en temps supplémentaire. Et c'est un appel derrière l'autre auquel ils doivent répondre. Puis ils doivent mettre des appels en attente. Et quand ils sont obligés de mettre ces appels-là en attente, ben les appels rentrent en urgence. Et là, on fait ces appels-là en urgence qui, en fait, ne sont pas nécessairement des urgences. Vous comprenez, c'est une roue qui fait qu'on finit par s'épuiser. Puis les gens, à cause des conditions de travail, vous savez, maintenant, exemple, paramédic, ça prend une formation collégiale de 3 ans. Et pour rentrer là, ça prend des bonnes notes. Donc, les gens ont la capacité de poursuivre à l'université et d'aller faire d'autres choses. Quand les gens embarquent sur le marché du travail, puis après 1 an, 2 ans, ils se rendent compte de ce que c'est. Ben, il y en a beaucoup qui retournent aux études, puis on les repère, là. Alors, on a vraiment un problème à tous les niveaux de charge de travail. Puis autant au niveau du personnel de soutien, ben, on a le même problème aussi, parce que les gens qui préparent les véhicules, s'ils ne sont pas au rendez-vous, les véhicules ne sont pas prêts, on ne peut pas sortir. Puis au niveau du personnel de bureau, imaginez la charge émotive des RMU, des paramédics. Si là, finalement, en bout de ligne, en plus, t'attends pour faire traiter quand tu as un problème de CSST, t'attends pour avoir ta paye, t'attends tes corrections de paye, alors que t'es occupé émotivement à une charge de travail qui est beaucoup trop grosse, qui entraîne des syndromes de choc post-traumatique. Puis en plus, le personnel de bureau n'est pas capable de nous venir en aide et eux, à pas être capable de donner non plus le service en appui, eux aussi s'épuisent. Alors, c'est toute la chaîne au complet qui est épuisée. Alors là, il faut rapidement, tu sais, il va falloir rapidement que le gouvernement continue à prendre des moyens là, pour faire en sorte de régler le problème de pénurie dans le secteur préhospitalier. On n'est pas un gros secteur quand même, là. On parle de 5 000 travailleurs paramédicaux au Québec, des répondants médicaux d'urgence et tout ça. Fait que, il va falloir que le gouvernement poursuivre ses efforts et même trouve de l'innovation. Il y a plein de choses qu'on demande. On demande l'élargissement des soins. Alors, faut rentrer, faut former des paramédics pour le faire, là. Et on va voir au cours de la prochaine année combien de gens vont être diplômés et vont se joindre à nous, là.
OK. Une des choses que j'ai vues dans un article qui parlait des ambulanciers, je pense en Ontario, sinon c'était au BC, mais bon. Il parlait de l'effet sur le monde préhospitalier de la crise dans les hôpitaux. Essentiellement que, d'abord, quand que les lignes d'attente sont hyper longues à l'urgence, ça veut dire qu'elles sont hyper longues aussi pour les paramédics. Mais d'autre part, où est-ce que les soins médicaux de proximité, par exemple, les CLSC, quand que tout ce qui peut être dans la prévention médical, tant que ça peut pas faire son travail par manque de financement, par manque de personnel, etc. Ce travail-là, dans le fond, il tombe plus dans l'urgence. Donc, essentiellement, quand on délaisse tout ce qui est prévention, ça finit avec plus d'urgence, puis c'est ça, plus de travail pour les paramédics, les urgences sont plus remplies, donc ça rallonge les chiffres, comme vous le disiez. Donc, est-ce que vous, y a-t-il des demandes par rapport à ça? Dans votre négociation, c'est quoi la position de la fédération sur l'ensemble, mettons, du problème de la santé?
Bon, faut comprendre que les soins de pressurisés d'urgence au Québec se sont développés au cours des dernières années. Vous savez, avant ça, comme on disait, quand moi j'ai commencé, à l'époque, on appelait ça sous-ambulance. C'est ce qu'on appelait, excusez l'expression, là, mais grosse couverte aux deux, puis la grosse orteil dans ce trappe de femme. C'est-à-dire qu'on se rendait le plus vite possible à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Aujourd'hui, on stabilise les bénéficiaires, on donne des médicaments, même on tarde à partir justement pour stabiliser nos gens. Alors, il y a comme toute une gamme de soins qu'on fait. Et il faut comprendre que les conventions collectives de l'époque prévoyaient qu'un paramédic, bon, stabilisait le bénéficiaire, mais jusqu'à temps qu'il soit arrivé à l'hôpital. Donc, la convention collective elle-même prévoyait dans notre titre d'emploi que le patient finissait forcément à l'hôpital. Et si le patient finissait pas à l'hôpital, c'est simplement parce que le patient refusait d'y aller et il doit signer un refus comme quoi, de mon plein gré, contre l'avis du paramédic, je déclare refusé. Donc, notre avis à nous ne peut pas être autrement que d'aller à l'hôpital, comprenez? Alors, on engorge les hôpitaux pour finir. On a accepté de décloisonner le titre d'emploi. Et dans le titre d'emploi, ça fait en sorte qu'on pourrait être maintenant la dernière ligne. Donc, si on arrive sur un appel où le patient... Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de soins, là. S'il n'y a pas besoin d'un transport à l'hôpital, parce qu'on le sait, on l'a tout vu, là, de se ramasser toujours à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de service ailleurs. Alors, c'est la même chose. Là, les gens se ramassent à l'hôpital, là, on ne peut pas offrir le service. Là, on pourrait les rediriger ailleurs. Ils pourraient faire ce qu'on appelle du référencement. On est d'accord, justement, élargir le champ de pratique, faire du référencement, puis de faire ça en collaboration avec d'autres professionnels. Et on a ouvert ça dans la convention collective. Mais là, à l'heure actuelle, en ouvrant notre champ de pratique, en faisant plus large, on a bénéficié dans la dernière négociation que dans le fond, un supplément salarial, mais on est toujours en train de faire les travaux pour l'évaluation du titre d'emploi. Puis de la manière que c'est parti là, pas sûr qu'on va s'entendre, là. On n'est pas pantoute à la même place et on continue à dire que les paramédics, on a toujours été sous-payés, on a toujours été en rattrapage salarial et encore aujourd'hui, nous, on évalue que notre emploi vaut plus que le salaire qu'on a présentement et vaut plus que l'avance qui nous a été consentie. Alors là, il va falloir faire aboutir ces travaux-là. J'expliquerai que de tout temps, hein, à l'époque, on a pris sur notre bras de rentrer un moniteur défibrillateur à bord d'ambulance pour lequel on n'était pas payé, on a sauvé des vies. On a accepté maintenant de prendre 5 médicaments à bord des administrés pour sauver des vies, stabiliser des patients. On n'a pas demandé, on s'est comme toujours battu après. Là, présentement, on est en train de faire les travaux. Fait qu'on a dit, gardez ce qu'on veut. Puis on a dit, ben non, vous le faites pas encore, on n'en tient pas compte, là. Alors, vous comprenez que là, on est à l'étape où, évidemment, on retombe en négociation et on espère régler ça. Aussi, dans les conventions collectives des paramédics, on a mis une lettre d'entente dans laquelle, à partir du moment où il y a un élargissement des soins, ben l'employeur va nous contacter et va s'asseoir avec nous pour nous entendre, histoire de s'assurer que les conditions de travail qui vont être liées avec ça vont être en respect de nos conditions de travail, évidemment, et faire des choses dans l'ordre des choses. Vous savez, puis je passe le message, la F3SSN a toujours été précurseur depuis 1984 l'avancement des soins prestataires au Québec. Ça serait pas de la F3SSN qui pousse constamment, ben on serait pas rendu aussi loin qu'on est. Mais maintenant, dans l'élargissement des soins, d'ailleurs, j'étais encore en rencontre ce matin où je l'indiquais aux gens, consultez-nous. Nous, on n'a pas envie qu'on arrive avec des projets d'agrandissement de soins, d'élargissement de soins, puis qu'on soit en train de critiquer ça puis de bloquer ça parce qu'on n'est pas d'accord puis ça fonctionne pas, là. On veut que les gens viennent nous rencontrer puis on veut participer à ça. Je vais donner un bel exemple, là. Quand ils ont modifié la loi sur les services préhospitaliers d'urgence avec l'inscription au registre national pour nos conditions de travail, on avait été consulté par le gouvernement avant et on a adhéré à ça, on l'a moussé et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on veut faire ça. Maintenant, je pourrais vous parler un peu des RMU, des répondants médicaux d'urgence. Là, on entend parler des fois de fusion dans les airs de ces gens-là, là. Mais tu sais, qu'on les fusionne, qu'on les fusionne pas, là. Que ça soit du privé, que ça soit du gouvernemental, peu importe c'est quoi, là. Ce qui est important, c'est la façon dont on est géré, hein. Alors, là, présentement, ces gens-là font face à une charge de travail aussi très élevée comme les paramédics. Il y a beaucoup de détresse psychologique. Et là, pour l'instant, là, l'important, c'est de donner des conditions de travail aux paramédics et aux répondants médicaux d'urgence, à mon avis, beaucoup plus que de commencer à jouer avec les structures, parce qu'à chaque fois qu'on joue avec les structures, on finit toujours par se ramasser, de dire, mais là, à la base, ça n'a rien changé. Alors, on espère que le gouvernement va mettre l'énergie là-dessus. Puis, vous savez, j'en profite pour passer le message. Là, il y a le projet de loi 15 présentement qui est là, qui ne nous touche pas pour l'instant, le préhospitalier, là. Mais quand je regarde ce qui se passe au niveau du PL15, moi, je pense qu'à certains endroits, là, on fait fausse route et on espère que le gouvernement va avoir l'ouverture présentement. Là, je comprends qu'il y a des discussions qui se font pour parler des choses que tout le monde y trouve son compte. Là. Parce que si on ne tient pas compte de notre base, on va vider le secteur. Là, on donne des soins aux humains. Puis on ne peut pas donner des soins aux humains tout le temps en étant nous pris avec des problèmes de relations de travail, des problèmes de milieu de travail. Là. Va falloir à un moment donné qu'on règle tout ça puis qu'on puisse aussi souffler un peu parce que les gens tombent au combat.
Peut-être pour finir, là, vous en avez parlé là, brièvement, mais je pense que ça vaut la peine de juste mettre les choses au clair. Vous avez parlé de salaire. C'est sûr que là, l'inflation, pendant la période des négociations, a monté d'une manière assez extrême. Puis si vous étiez déjà en rattrapage avant la montée de l'inflation, avant la montée des taux d'intérêt, là, puis que les hypothèques des travailleurs montent en flèche, les loyers, puis tout ça. Comment ça se passe au niveau de la question salariale dans les négos, puis qu'est-ce que vous espérez trouver demain ou aussi avec la prochaine convention?
Écoutez, on sait présentement que le secteur public négocie des augmentations de salaire, comme on pourrait dire, au coût de la vie, là. Alors, nous, ils ont tout notre appui et on compte sur eux autres pour tirer leur épingle du jeu. Et nous, ce qui nous reste à faire, parce qu'on comprend que c'est tous les travailleurs aussi qui ont besoin de manger, là, puis qui ont besoin de se loger. Et puis, par contre, on espère aussi pouvoir être rémunéré à notre juste valeur. Et évidemment aussi, ben, à un moment donné, comment je pourrais vous dire, tu sais, on a, exemple, on manque de travailleurs de nuit. Là, on a décidé de refuser de donner des remplacements de jour à des gens pour les obliger à aller de nuit, des gens qui travaillent, qui ont réussi à finir par travailler de jour. Alors, ce qu'on dit, c'est, écoutez, mettez des incitatifs. Comprenez, présentement, on a un problème, vous n'avez entendu parler dans le secteur public, de sous-contractants. Comment se fait-il que je ne suis pas capable d'avoir un paramédic à son salaire, à son échelon salarial, pour travailler à Montréal ou pour travailler au Lac-Saint-Jean ou travailler à Manic? Puis que là, il y a une agence qui va prendre un paramédic, le paramédic qui est assis dans son ambulance au quatrième échelon, là. Puis ils vont faire venir un paramédic de l'extérieur qui vont payer au top échelon, qui vont y payer son kilométrage, qui vont y payer ses repas, mais qui ne cotisera pas à son régime de retraite. Puis qui va faire qu'on va avoir un problème de société plus tard, parce que ces gens-là, ils n'auront pas cotisé à leur régime de retraite, là. Et puis ces gens-là viennent s'asseoir dans le camion à côté de toi, payer plus cher que toi, toutes dépenses payées. J'ai été travailleur à l'extérieur, présent. Ça, je vous parle pour Montréal, ou comme c'est aberrant, OK? Puis même à ça, là, ils commencent à avoir de la misère à en trouver, parce que quand ils arrivent à Montréal puis qu'ils voient la charge de travail, ces gens-là t'offrent pas bien ben longtemps, là, ils s'en retournent. Et quand on regarde en région, ben j'ai la personne qui, elle, a un montant forfaitaire pour se déplacer, qui fait 250 km pour aller travailler dans son endroit isolé, alors que l'agence va envoyer quelqu'un puis va y payer un montant beaucoup plus cher que le kilométrage qui est payé. À part qu'il tient là juste parce qu'il y croit, puis il croit à se battre pour ses conditions de travail. Cette personne-là a juste envie de démissionner. Comprenez? Par contre, ça va pour l'agence, elle aura plus d'argent, mais elle n'aura pas de régime de retraite. Alors, on ne comprend pas cette façon-là de laisser le gouvernement aller ces choses-là. Pourquoi? Parce que, on est quand même un secteur, un service public, là. Quand vous voyez les ambulances, les numéros, des fois, les noms de compagnie changent, là, mais il reste qu'on est un service public. Alors, il faut le traiter comme tel, puis il faut traiter ça comme des joyaux de la couronne, là. Il faut en prendre soin, hein.
Carrément. Ben, je pense que c'est un bon endroit où se laisser. Merci beaucoup, Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la Fédération en santé et services sociaux de la CSN. Puis bon courage là, pour la fin de cette négo puis la prochaine, parce que c'est sûr que ça l'affecte tout le monde.
Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.
You're listening to CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.
La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pommes pourries quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chiautauqua, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet. Comme on l'a mentionné dans le dernier épisode, les prisons n'ont pas toujours existé. Leur apparition s'inscrit dans un processus de gestion des corps et des vies humaines qui accompagne la naissance du capitalisme. Les prisons comme telles font bien sûr partie d'un plus grand système carcéral, très développé dans notre société, qui sert pas seulement à punir une personne qui a commis un geste considéré illégal, mais permet aussi à l'État d'exercer un contrôle social. Les répercussions de ce système sont néfastes pour les personnes emprisonnées et leur communauté, aussi bien que pour le reste d'entre nous qui vivons en connaissant les conséquences de ce qu'ils représentent. Pour en apprendre plus, nous vous présentons une entrevue avec Ellen Hudson. Depuis une vingtaine d'années, Ellen Hudson milite en solidarité avec des prisonnières et prisonniers. Elle habite sur le territoire Kaninkahaka, non cédé, aussi connu sous le nom de Montréal, mais travaille principalement avec des prisonniers politiques aux États-Unis. Elle s'identifie comme une femme noire, queer et anarchiste. Au niveau politique et social, qu'est-ce que c'est la prison?
Bien, la prison, tout d'abord, pour moi, l'important est de mentionner que la prison, c'est pas juste un endroit qui existe, c'est une institution sociale. C'est-à-dire, il y a une fonction que la prison, ça sert à quelque chose dans notre société. Et puis, c'est lié avec toute autre institution dans la société. Donc, c'est clair que c'est lié au gouvernement, à la police, mais il faut aussi être conscient que c'est lié à l'économie, à le système d'éducation, les frontières, tout ce qui fait fonctionner la société, il y a un lien avec la prison. Et c'est quoi la fonction de prison? Pour moi, à mon analyse, c'est un contrôle social, spécifiquement quand la société, le capitalisme, l'État cause la précarité, il faut faire quelque chose avec ces gens précaires et il faut faire quelque chose pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des pouvoirs, que l'État a les pouvoirs sur eux. Alors, c'est ça la fonction de prison, d'avoir un endroit pour garder comme un surplus de personnes, de travailleurs, et pour envoyer le message clairement que la coercion, il est là comme menace à la population, à la peuple.
Peux-tu nous dresser un portrait de la population carcérale au Canada? Qui se retrouvent en prison et quels sont les liens entre leur incarcération et les autres formes d'oppression auxquelles ces personnes font face?
Mais comme j'ai dit, la prison est là pour envoyer un message et pour contrôler des gens. Alors, ça ne se prend pas que les gens marginalisés, les gens opprimés se retrouvent en prison en grand nombre. Donc, au cours des dernières décennies, les dernières 4 décennies, on a voir une augmentation en général en le nombre de personnes en prison dans le monde occidental. C'est-à-dire des pays comme Canada, les États-Unis, en Europe, etc. Au Canada, on n'a pas vu augmenter notre population incarcérée, mais on a vu augmenter les personnes opprimées. Pour donner un exemple, en 2001, le pourcentage de prisonniers dans les prisons canadiennes fédérales, où se retrouve tout le monde qui purge une peine de plus que deux ans ou plus, le taux de personnes autochtones était juste en bas de 20%. Là, c'est en haut de 30%, juste en haut de 30%, 30.5%. Quand on regarde chez les femmes autochtones, c'est plus que 40%. Et avec les jeunes, les personnes jeunes, n'importe leur genre, c'est aussi élevé comparé à cette 30% qui est déjà élevé par rapport à la 5% de personnes au Canada, dans l'État de Canada, qui sont autochtones. Donc, c'est une grande surincarcération. Et ça, on voit aussi chez les personnes noires. Donc ça, on parle un peu de racisation des prisonniers et prisonnières, mais aussi quand on regarde tout ce qui est l'oppression, la pauvreté, des problèmes sentimentaux, l'analphabétisme, tout ça, c'est surreprésenté en prison. Donc, on voit clairement que les personnes opprimées sont les personnes qui se retrouvent en grand nombre derrière les barreaux.
Prison touche-t-elle la vie des gens qui ne sont pas elles-mêmes emprisonnés?
Moi, c'est très clair que la prison, ça touche la personne emprisonné, mais ça touche des communautés, ça affecte des communautés. Quand quelqu'un est en prison, cette personne laisse leur famille, laisse leur job qui est souvent enraciné dans leur communauté. Mettons, par exemple, une communauté noire comme Montréal-Nord, juste pour prendre un exemple. Mais ça, je vais parler du État canadien, mais la même dynamique se reproduise dans tous les pays occidentaux. Donc, quand on enlève en grand nombre tout le monde qui peut travailler, tout le monde qui peut être tête d'une famille, tout le monde qui a les rôles dans une communauté où ils transmettent des savoirs culturels, toutes ces sortes de choses qui peut être un peu le leadership, pour le dire comme ça, d'une communauté. Si ces gens sont derrière les barreaux, c'est pas juste eux qui sont affectés. C'est sûr que c'est eux qui sont affectés très, très concrètement, mais c'est aussi comme une cercle vicieux qui se produise dans le sens que les jeunes, les enfants dans les communautés où beaucoup d'adultes sont emprisonnés vont voir leur chance d'être emprisonnés aussi dans le futur augmenter.
Donc, en plus de cibler et d'affecter les populations déjà les plus opprimées et les moins privilégiées de la société, le système carcéral perpétue ces oppressions. Au lieu de régler quoi que ce soit, la prison accentue les causes de la soi-disant criminalité. Pour toi, l'abolition des prisons est une réponse à ces injustices. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'abolitionnisme?
Mais l'abolitionnisme, c'est clair par son nom, c'est que il a pour but d'abolir la prison, de faire en sorte que on va avoir une société sans prison. Quand je mentionne ça, souvent j'ai une réaction que c'est une idée un peu ridicule ou un peu utopiste, dans le sens que qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce qu'on appelle des crimes, c'est-à-dire des méfaits entre des personnes, quelqu'un blesse quelqu'un d'autre ou prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut régler ça sans prison? Ben, honnêtement, j'ai pas de réponse très, très simple et très concrète à ça, mais juste pour dire qu'il y a des sociétés où ça se fait pas de façon comment on règle ça dans notre société, c'est-à-dire avec des prisons. L'autre chose pour mentionner est que si on veut régler des problèmes entre les gens en dedans des communautés, c'est très, très différent d'y impliquer l'État. Parce que avec la notion que des crimes qu'on a avec les cours, la police, la prison, ce qui vient avec est que toute l'oppression que je viens de mentionner, mais aussi que si ce n'est plus conceptualisé comme un méfait contre une autre personne, mais plutôt un méfait contre l'État. Donc, mettons que moi, je prends votre bicyclette, je prends ton bicyclette à toi. Avec la notion des cours, des prisons, des crimes, c'est pas entre moi et toi, c'est entre moi et l'État. Donc, ça devient complètement autre chose. Avec l'abolition des prisons, on veut toujours avoir une façon de régler ça entre moi et toi, entre tout le monde qui est affecté, mais ce n'est plus une affaire d'État, ce n'est plus une méfaite contre l'État. Et en plus de ça, au-delà de ça, ce n'est plus question de punir. Parce que ça, c'est l'autre aspect de l'abolitionnisme, et c'est axé sur des solutions, c'est axé sur ce qu'on appelle en anglais restorative justice. Il y a sûrement un mot français pour ça, mais ça m'échappe. C'est-à-dire de retourner à un état, pas un état comme l'état, mais comme une situation où tout le monde est correct, où on a guéri l'injustice qui s'est produite. L'autre chose que j'aimerais mentionner avec l'abolitionnisme est que c'est à la fois pour faire en sorte qu'il y a plus de prison et en même temps pour essayer de bâtir les alternatives. Donc, il y a une lutte anti-carcérale, mais il y a aussi une lutte pour une vision de notre société.
Restorative justice, en français la justice réparatrice, sert, en bref, à trouver un moyen pour la personne qui a causé un tort à une ou des personnes de réparer le mal qu'elle a causé, selon les besoins et les demandes de la ou des victimes. Au soi-disant Canada, le gouvernement fédéral s'est approprié le terme justice réparatrice en lui donnant une place dans son système carcéral punitif. Aujourd'hui, certains et certaines préfèrent donc parler de justice transformatrice, soit une forme de justice refusant toute collaboration avec l'État et misant sur la transformation des mentalités, notamment par le biais de processus entre les victimes/survivantes et les personnes ayant causé du tort. Nous allons revenir sur ces notions dans un des prochains épisodes du Verger au complet, qui portera plus spécifiquement sur les formes de justice alternative. Qui voudraient voir un monde sans prison, il y en a qui sont critiques du terme abolitionnisme. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que le mot abolition veut dire exactement pour toi?
Mais il y a deux aspects de ça. D'abord, comme mon premier point sera de dire que tout à fait, on peut avoir une critique très réelle dans le sens que d'abolir la prison, ça veut dire quoi? C'est une question tout à fait pertinente parce que on peut pas vraiment abolir une institution de la société juste le faire disparaître. C'est sûr que si c'est lié à la suprématie blanc, le capitalisme, le patriarcat, l'homophobie, toutes sortes de choses, on peut pas juste faire l'abolir. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent abolitionnistes qui ont pas une critique de toutes ces autres institutions que je viens de mentionner. Donc ça, pour moi, c'est pas très réaliste de dire on va juste abolir la prison et le reste de la société, ça va rester comme il est. Pour moi, c'est pas réaliste et c'est pas juste non plus. De l'autre côté, le terme abolitionnisme, ça fait un lien direct à l'abolitionnisme de l'esclavage. Et il y a beaucoup de gens dans les mouvements abolitionnistes qui font ce lien très fortement dans le sens que la prison est une institution profondément suprémaciste blanc, profondément coloniale. Alors, quand il y avait le mouvement abolitionniste de l'esclavage, cet mouvement n'a pas tout à fait réussi. On a toujours l'esclavage a légué la suprématie blanc et la suprématie blanc, c'est un des fondements de l'institution de prison. Donc, pour beaucoup de gens qui se disent abolitionnistes, c'est que c'est le même mouvement. C'est toujours le même mouvement. C'est une continuation de le mouvement abolitionniste qui existait il y avait un peu plus d'un siècle. Et pour moi, en tant de personnes noires, de personnes antiracistes, c'est important de faire ce lien. Donc, c'est pour ça, en partie, que je me dis abolitionniste et pas juste une personne anti-prison. L'autre chose est qu'il y a l'abolitionnisme du prison. Il y a aussi l'abolitionnisme carcéral Et pour moi, l'abolitionnisme carcéral est plus pertinent, c'est plus large dans le sens que il y a aussi des autres instances carcérales, il y a aussi des autres façons d'enfermer des gens. C'est-à-dire les choses qui se disent les alternatives à prison, donc mettons des bracelets GPS où des gens sont confinés chez eux mais toujours surveillés par l'État et pas capables, pas permis de partir de chez eux. Il y a des frontières, il y a des hôpitaux psychiatriques fermé. Là, j'ai dit hôpitaux dans des guillemets. C'est pas des vrais hôpitaux pour moi. Il y a personne qui va se guérir là. Alors, c'est ça, l'abolitionnisme carcéral. Donc, c'est-à-dire l'abolitionnisme du prison, de toute autre instance carcérale et avec un lien historique à l'abolitionnisme de l'esclavage.
Et qu'est-ce qu'il en est du féminisme carcéral?
En fait, en parlant, je me suis rendu compte que dans une des autres questions, j'aurais voulu parler un peu plus de la patriarcat spécifiquement, parce que une partie de discours des prisons très centrale est que le prison est là pour nous garder en sécurité, de nous protéger des personnes qui sont emprisonnées. Et parmi les luttes révolutionnaires, je pense qu'il y a dans tous les mouvements des éléments réformistes qui ont pour réponse à leur oppression qu'il faut punir les gens et entre autres avec la prison, mais surtout en les luttes anti-patriarcat et surtout en les luttes contre la violence contre les femmes, il y a des éléments qui exigent les peines plus longues, les lois plus sévères. Il y a un nom pour ça, c'est le féminisme carcéral. Et là, dans les années récentes, ça me donne beaucoup d'espoir de voir un dialogue en dedans des mouvements féministes comme quoi le féminisme carcéral, c'est un grand problème et c'est pas une solution à la sexisme de enfermer les gens parce que ça améliore pas la sécurité des femmes. Et on voit avec les lois plus sévères que c'est souvent les femmes qui se retrouvent derrière les barreaux pour se défendre. Donc voilà, c'est ça que je voudrais ajouter, parce que c'est souvent une question que des gens ont. Comment est-ce qu'on va être en sécurité? Comment est-ce qu'on va se protéger? Et c'est comme une... A trap, on dit en anglais, de penser que la prison va nous protéger et de faire recours à ça comme revendication dans nos autres mouvements.
Je suis pour mec, je suis au clan. À ma seule pied des mecs dans mon gauche. Rampe dans le chaos, je suis magique. Oh gars, je n'aimerais pas faire qu'à propos des commentaires. Si tu fais que la popote est un menteur, comment je n'en pas qu'il le cut dans ton menteur? Le clac clac est en train de s'ébouquer, j'ai fait quand je m'étais ton opinion. Ah, c'est pas que tu peux que tu sportes, c'est pas pareil. Tes copains sont d'accord, ça doit être correct. C'est pas pour visiter, tu vas classe. Et les tuyaux, je prends le sérieux, no thanks, sorry. Ben du courage, derrière ton écran. Sans entourage, ça ne sert à mon cran. Je fais tout le travail quand je démolis ta bouche. Je dis merci, maman, reste poli. Je dis tu fais ce point parfait. Ok, y'a pas ça, pas le temps à me perdre dans des débusters. J'pense à te faire des choses terribles comme Nick qui mène dans Tocqueville. C'est mon wifi show depuis que je rentre dans la pièce. C'est manif un show, tu plies des bonnes places. Fais, il se passe quelque chose comme point en fâche et hit the fam. Est-ce que t'es en place? Pas de mic, j'crois que j'l'ai pas t'écouté. Chance mince, que j'me rappelle tes catés. J'm'en calise tes commandes, t'es plus tôt tes cafés. Dans mes voyages, what up, c'est un petit DJ à côté. J'sais pas pourquoi j'suis aussi peur. Un gentleman, t'es parce que j'ai pas peur des araignées. J'suis officiellement donné avec les gars moyens. Next time, si c'est fun, soit je fais payer. Trop vieux pour attendre après un putain. Texte, c'est ce que je suis, j'suis en train de migrer un putain de tic. J'ai oublié, faire genre, on pourrait se revoir. Manquer d'étiquette, one way ticket. J'pense avec détermination dans un cul-de-sac. Quand I've done, j'suis strong, j'suis pas cul-sac. J'suis pas j'ai touche back, j'cherche tout de force. J'suis nicole, c'est l'ambiance et j'écoute fort. J'suis pas cette force, c'est ce que ça pousse fort. Pour ce que dans ta bouche, j'suis petit goût de fort. T'as même mis chez fond du bac, t'as un clown. Ah, j'commence même pas avec toi, j'te laisse tout de fort. J'crache du feu, j'ai des pensées toxiques. J'veux pas crash and burn, j'élimine les toxines. J'colle sur les chocs, les mon flow, chaque fois j'ai mon unapologize comme Jack Meets, baisse d'un ton, je monte un doigt, la baisse au fond, on monte sur le toit, je suis chippé dans le fond, sur des chemins étroites comme un chèque sans fond, personne n'a besoin de toi, tu pensais que j'hésitais pas parce que j'ai pas dans ton screen, juste lève la tête, je fais jam comme screen, puis personne n'a tête, tu fonds déjà comme ice cream, tu vas taffer tes filets, tu fait des streams, oh, mauvaise nouvelle.
Alors, être abolitionniste, ça implique quoi en termes concrets, comme action, comme stratégie ou comme engagement politique?
Pour moi, je commence par la fin. Comme engagement politique, pour moi, c'est central. Quand je me suis radicalisée, quand je suis devenue militante, au début, c'était pas contre les prisons. Je faisais du militantisme féministe, queer, antiraciste, et ça m'a pris quelques années pour comprendre que la prison est centrale dans toutes ces luttes. C'est une façon d'opprimer des gens, des mouvements. Beaucoup de mon travail avec les prisonniers, c'était avec des prisonniers politiques, dans le sens que c'était des prisonniers incarcérés pour leur rôle dans des autres mouvements sociaux. Donc, si on est sérieuse à opposer et à vaincre le patriarcat, le capitalisme, la suprématie blanche, le colonialisme, la transphobie, et là, je peux continuer la liste, toute forme d'oppression, toute structure qui nous opprime, c'est important de ne pas avoir des murs en dedans de nos luttes. Donc, c'est de inclure tout le monde, incluant les prisonniers et les prisonnières dans nos luttes, et de viser l'institution de prison comme une de cible de toutes ces luttes. Donc, là, c'est une réponse un peu plus théorique. Pour aller un peu plus dans le concret, quand j'ai mentionné tantôt, il y a comme deux pistes. Il y a la piste abolitionniste en tant que telle, c'est-à-dire pour la lutte anti, la lutte contre les prisons. Il y a aussi le côté plus visionnement des alternatives. Honnêtement dit, moi, je suis moins impliquée dans la partie vision, mais juste, je trouve l'important de le mentionner. Mais en termes de ce qui est le côté plutôt anti, c'est prendre le leadership des prisonniers et prisonnières, donc de soutenir les luttes qui se font en dedans des prisons. Et il y en a plein. Il y a des grèves de faim, des grèves de travail où les prisonniers refusent de travailler. Il y a toutes sortes d'autres actions. Donc, d'être en lien avec ces luttes-là, de prendre un leadership de ces gens. Et ça veut dire des fois de faire des choses qui ont pas juste le destruction complète du prison comme exigence, comme but. Donc des fois il y a des prisonniers, des prisonnières qui réclament, mettons, des conditions un peu moins sévères. Et des fois nous les militantes en dehors des prisons, on peut trouver ça un peu réformiste, mais c'est une lutte très concrète pour améliorer les conditions de vie de nos camarades. Donc, d'être en solidarité avec ces luttes, c'est très important. Et d'y amener un regard abolitionniste. C'est d'avoir un dialogue comme quoi ces luttes font partie d'une lutte plus large. Aussi très important concrètement, et de opposer tout ce qui est l'expansion des prisons. Ces jours-ci, il y a beaucoup de surpopulation dans les prisons qui existent. Beaucoup de prisons sont très vieux. Donc, des fois, on peut avoir des revendications pour des nouvelles prisons, des prisons qui se disent meilleures. Et c'est très important d'opposer à ça, dans le sens que quand on construit des nouvelles prisons, on va les remplir. On voit ça très clairement quand on regarde l'histoire plus ancienne et l'histoire très récente, que c'est super important de toujours opposer ça. Et ça, c'est une des choses que les abolitionnistes font beaucoup. Je sais qu'actuellement, à Montréal, il y a une campagne contre une nouvelle prison immigrant qui se fait. Et alors voilà, je pense que je vais terminer là.
Bref, plutôt que d'être une lutte secondaire, militer pour l'abolition des prisons constitue une nécessité en soi pour quiconque souhaite réellement s'attaquer au système capitaliste. Levier de production des inégalités sociales, les prisons oppriment, marginalisent et se basent sur une vision patriarcale et suprémaciste de la société pour punir. Édifier un monde anti-autoritaire passe donc nécessairement par l'abolition des prisons et de manière plus juste du système carcéral qui se reproduit par l'enfermement des personnes stigmatisées comme indésirables. S'il peut sembler à première vue irréaliste de régler le tort commis par les membres d'une communauté sans avoir recours à l'État, comment s'empêcher d'arriver au même constat avec le système carcéral? N'est-il pas fondamentalement irréaliste d'espérer régler tous nos problèmes sociétaux en enfermant toutes les personnes ayant causé du tort? S'il faut lutter activement pour l'abolition et contre l'extension du système carcéral, oublier les personnes y étant actuellement enfermées apparaît cependant comme non souhaitable. Et ce, surtout pour les personnes n'ayant jamais été emprisonnées ou n'étant pas en contact avec des personnes emprisonnées. De la réduction des méfaits à l'autonomie radicale des collectivités, sans oublier les formes de justice alternatives comme la justice réparatrice ou transformatrice, de nombreux exemples de communautés refusant d'avoir recours au système punitif pour régler le tort causé se doivent d'inspirer nos trames de résistance collective. Un dernier mot pour vous inviter à la manifestation anticapitaliste du 1er mai à 16h au parc Jarry, coin Saint-Laurent et Gary Carter. La manifestation de cette année a pour thème « Pas de retour à la normale » parce que nous refusons autant le monde pré-pandémique que...
Good evening, it's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage in Ganyagaha and Muniang in Anishinaabe Mohan, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah Day, recording from home on Thursday, June 15th, 2023. On tonight's program, spotlighting four more shows at the Montreal Fringe Festival, which wraps up this weekend. Box office records have been smashed, over $125,000 in sales as of yesterday, with another 5 days to go, and there's still tickets left for the remaining dozens of shows that you can see. And if you need suggestions, check out the just released Frankie nominations. All the shows up for grabs on Sunday night's closing party and awards show at the Club Soda. You can check out montrealfringe.ca. Some things that I've loved include Les Beyonest, Heart Beasts, Games I Don't Want to Play, and I'm looking forward to hopefully seeing Gem Rolls and Ha Ha Da Vinci. Those two shows were our guests last week. As for tonight's guests, they include storyteller and performer Cameron Moore, famed for composing sidewalk smut and talking about sex, on her naked ambitions, posing nude, and trying different things in her new show, Muse.
In terms of what's fresh and new and feels scary, I've always believed, or at least for a long time believed, that wherever the fear is, you should move towards that.